voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Voici un nouveau volet de notre série d'émissions sur Canal Academy. Les académiciens racontent l'histoire consacrée au roi Louis XV. Nous vous proposons de découvrir la plume, l'esprit de l'académicien que fut le marquis d'Argenson, ministre des Affaires étrangères sous Louis XV de 1744 à 1747. Son frère, le comte d'Argenson, fut secrétaire d'État à la guerre de 1743 à 1757. Grâce à des lectures, d'extraits des mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, vous allez assister à l'accueil qui fut réservé à la parution du fameux dictionnaire encyclopédique, puis à la situation problématique dans les Cévennes de la Réforme et des troubles engendrés qui deviennent de véritables luttes entre protestants et troupes armées du roi Louis XV.
Il se forme un grand orage contre le dictionnaire encyclopédique. Et cet orage vient des jésuites, y ayant eu cet hiver grande querelle entre les auteurs du livre et les journalistes de Trévoux. Les jésuites sont italiens et machinent de loin leur vengeance. Que fait-on contre les auteurs de cette grande et utile entreprise? On les accuse d'impiété. De là cette accusation contre la thèse en Sorbonne de l'un d'entre eux, l'abbé de Prades, où il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il est certain que cette thèse fut soutenue d'abondants applaudissements, mais la jalousie des autres licenciés fit trouver des sujets de critique au bout de 4 ou 5 jours. Les licenciés envieux, ayant été le dénoncer aux jésuites, ceux-ci qui méditaient déjà une persécution contre ce livre ennemi, semèrent à l'instant dans Paris une grande clameur contre la thèse et son auteur. On les crut sans examen. Il est certain que ces matières théologiques sont si délicates et si embrouillées qu'à moins de copier les saints-pères de verbo ad verbum, il est facile d'exagérer les sujets de scandale aux yeux des ignorants et des gens du monde. Saint Lactance a dit la même chose que l'abbé de Prades sur le principal article relevé. Or, les jésuites ont beaucoup de crédit dans la Nouvelle Sorbonne, que l'on nomme carcassienne. Aussi travaille-t-il avec avantage pour flétrir le licencié encyclopédiste. Je vois, par une réponse d'un ministre, que l'on en veut aujourd'hui à tous ces auteurs encyclopédiques, qu'on les chicanera tous, qu'on fera passer cette petite académie pour un repère d'incrédules. Or, les bons jansénistes donnent dans ce nouveau panneau des jésuites avec toute la sottise possible. Ils sont les premiers à crier à l'incrédulité du siècle, au matérialisme de certains savants. Ils oublient le tolérantisme, la patience, la douceur chrétienne. Ils jugent témérairement et impitoyablement par zèle, comme les jésuites par affectation politique et inquisitoriale. Ils ne voient pas, les bonnes gens, à quel point ils servent les jésuites dans cette animosité et travaillent aux vengeances et aux triomphes de leurs ennemis. Le 29 décembre, l'abbé de Prades a été condamné pour sa fameuse thèse de Sorbonne. Il est obligé à se rétracter. On lui fait perdre sa licence actuelle, sauf à lui à en recommencer une nouvelle. On dit que l'archevêque de Paris l'a interdit de son ministère sacerdotal jusqu'à sa rétractation. Le Parlement jugera conformément au jugement dogmatique. On parle aussi d'exil de la part de l'autorité royale. Voilà un homme perdu. En quel lieu se pourra-t-il réfugier ? 10 janvier 1752. L'Encyclopédie continue à éprouver l'inimitié jésuitique. Un des principaux rédacteurs m'a dit qu'on leur donnait les censeurs les plus rigides, qu'il fallait leur déférer en toutes choses et ne plus parler de Dieu ni de tout ce qui a rapport à la divinité. Cependant, la Sorbonne est embarrassée pour condamner l'abbé de Prades. On l'accuse d'affectation, d'avoir affecté de ne farcir sa thèse que de propositions hasardées et propres à scandaliser, d'un fond de matérialisme, d'irréligion, qui répond à la mode des philosophes du siècle, à ce goût philosophique d'aujourd'hui, de religion naturelle. Malheur à qui en parlera désormais. Le Parlement y veut sévir et parle de faire fustiger un des premiers coupables. Mon ami d'Alembert est des premiers soupçonnés. Le dictionnaire encyclopédique est menacé d'attaque et de prohibition. C'est un repère, dit-on, de cette secte impie. Voilà un orage affreux qui menace les meilleurs écrivains du siècle et va de nouveau les soumettre aux jésuites. Le 21 janvier 1752. Le roi, extrêmement irrité contre le Parlement, vient de déclarer qu'à qui que ce soit l'on n'accorderait plus de dispense d'âge et l'on ne serait reçu à aucune magistrature supérieure avant l'âge de 25 ans, de quoi il sera fait une loi d'État. L'on a déjà appliqué cette loi au fils d'un conseiller qui a été refusé et a pris le parti de voyager. De cette affaire, les charges de conseiller vont diminuer de 20 000 livres. C'est justice de rétablir cette règle dans sa rigueur. Les dispenses, anciennement considérées comme de grandes grâces, étaient devenues de droit commun à tout le monde, et l'exception était devenue la règle. Mais malheureusement, cela se fait par passion. Le roi a conçu une haine épouvantable du Parlement, et n'envoie aucun membre sans frémir. Le cardinal lui a dit que tout ce corps était janséniste. Et qui dit janséniste, pense sa majesté, dit ennemi de Dieu et du roi. D'ailleurs, on sait qu'aux dernières assemblées des chambres, c'est la jeunesse qui a fait le plus de tapage et a le plus insisté sur les avis de vigueur et de hardiesse. De là aussi une aigreur qui se reproduit dans toute chose, de sorte que, dès qu'il y a quelques prises à la critique dans les démarches du gouvernement, le Parlement les reprend d'abord, et avec grande vivacité. Le roi va retirer son règlement sur l'impôt des cartes et y substituer une déclaration qui adoucira les visites et les peines contre la fraude. Il y avait peine des galères contre la distribution de fausses cartes. Reculade auquel on accoutume trop l'autorité royale et que le Parlement oblige à faire trop souvent par l'imprudence des ministres. « 7 mai 1752. Madame de Pompadour et quelques ministres font solliciter d'Alembert et Diderot de se redonner au travail de l'encyclopédie en observant une réserve nécessaire en tout ce qui touche la religion et l'autorité. J'en ai conféré avec d'Alembert et il m'a démontré l'impossibilité qu'il y a pour les savants d'écrire sur quoi que ce soit s'ils ne peuvent écrire librement. La philosophie conduit à de grands progrès en métaphysique et en religion » et en législation ou gouvernement. Les Anglais et ceux qui écrivent aujourd'hui dans les états du roi de Prusse font imprimer tout ce qu'ils veulent. Les découvertes en tout genre éclairent le monde, en parvenant aux Français qui sont vifs et pénétrants de leur naturel, et qui vont peut-être plus loin que les autres, quoique avec moins de moyens de communication. Il en résulte que nos savants philosophes de premier ordre voudraient écrire en pleine liberté, ou point, de peur de donner dans les lieux communs ou les capucinades. C'est par là que l'on m'a démontré impossible aujourd'hui ce qui se passait ci-devant. De plus, il est arrivé que le gouvernement, effrayé par les dévots, est devenu plus censeur, plus inquisiteur, plus minutieux sur les matières philosophiques. On ne tolérerait même plus aujourd'hui les ouvrages philosophiques de l'abbé de Condillac, permis il y a quelques années. Je me suis rendu à ces raisons. Mars 1753. Languedoc. On continue d'envoyer aux galères tous les calvinistes qui s'enfuient. Et dans un des derniers conseils, le roi a dit qu'il fallait pendre tous les ministres qu'on prendrait. le maréchal de Richelieu et le garde des Sceaux penchaient pour le tolérantisme. Mais ils ont scandalisé les évêques rigoristes et consciencieux. Ceux-ci veulent des abjurations formelles avant de mourir ou de baptiser les suspects d'hérésie. Il y a des assemblées nocturnes et le maréchal de Richelieu demande des troupes. Ah, que l'on est loin du but sur cela! Le roi ne devrait jamais consulter le clergé sur une pareille conduite. Il devrait ordonner tout ce qui est de manutention et de correction. Toute exécution des canons appartient à l'Empire. 4 octobre 1752. Les Huguenots se remuent dans les Cévennes. Tourmentés par Monsieur de Saint-Priest, nouvel intendant du Languedoc, et qui n'imite Monsieur de Baville que pour le mal. Mon fils, marchand de nuit dans les Cévennes, a été arrêté par une troupe de Huguenots séditieux armés, à la tête desquels était un ministre condamné à mort et plusieurs autres proscrits. Il ne voulait que lui remettre un placet au roi. Monsieur de Saint-Florentin et l'intendant ont concerté, à l'instigation de quelques évêques du Languedoc, d'inquiéter les Huguenots sur leur mariage, ce qui a produit plusieurs émigrations dont il est tant parlé dans les gazettes, et les Arméniens se sont renouvelés plus que jamais. Avril 1753. Jean-Jacques Rousseau, de Genève, auteur agréable mais se piquant de philosophie, a dit que les gens de lettres doivent faire 3 vœux. Pauvreté, liberté, vérité. Cela a indisposé le gouvernement contre lui. Il a témoigné ses sentiments dans quelques préfaces. Sur cela, on a parlé de lui dans les cabinets et le roi a dit qu'il ferait bien de le faire renfermer à Bicêtre. Son Altesse le comte de Clermont a encore ajouté que ce serait bien fait de l'y faire étriller. L'on craint ces sortes de philosophes libres. Mon ami d'Alembert est dans ce cas, et menacé de répréhension par nos inquisiteurs d'État. Les jésuites sont les plus grands instigateurs de ce système. Septembre 1753. On envoie vers les Cévennes 30 bataillons et 3 régiments de dragons, outre les troupes qui y sont déjà. C'est Monsieur de Saint-Priest, intendant du Languedoc, qui les demande pour exterminer le reste des Huguenots, qu'il est triste de répandre le sang des sujets. Voilà les conseils des prêtres et leur ambition violente. On sait qu'en Languedoc, l'épiscopat est plus maître du temporel qu'ailleurs. Décembre 1753. Les protestants se remuent de tous côtés et s'assemblent en grand nombre. Je sais que ceux de Saint-Onge s'assemblent actuellement. Ceux des Cévennes et du Bas-Languedoc sont tranquilles. Ils savent cependant qu'on leur déclare la guerre et que voilà 40 bataillons de plus qu'à l'ordinaire pour les détruire. Et ils ne disent mot. L'intendant du Languedoc, nommé Saint-Priest, est l'âme damnée de la marquise et de Monsieur de Machaut. Cependant, il est assez mal avec le maréchal de Richelieu. Il fomente tout ce qui peut troubler le Languedoc et contribuer à sa fortune. Le maréchal de Richelieu, destiné à commander 1 an dans la même province, n'a pas les mêmes raisons pour son compte. Voilà comme sont gouvernées nos meilleures provinces. Il paraît vraisemblable que les Anglais fomentent ces troubles et répandent l'argent pour troubler le royaume. Nous en avons bien usé de même chez eux. Février 1754. On dit qu'il y a eu 2 curés tués par les Huguenots. Ceux-ci ont pris les armes et sont au nombre de 50 000. Le maréchal de Richelieu a placardé l'ordre de dissoudre toute assemblée de Huguenots, ne fût-elle que de 4 personnes. On dit que, quand il est parti, le roi lui a donné l'ordre de pousser les Huguenots à outrance et de détruire cette engeance. Le maréchal de Richelieu a ordonné que tout mariage fait au désert eût à se faire réhabiliter devant les prêtres catholiques. Mais il va aller à Bordeaux et de là à sa terre de Richelieu, sans s'occuper autrement des Huguenots. Beaucoup de religionnaires quittent la France. Il en est parti 5 000 de Nîmes et des environs. On remarque qu'on n'a jamais autant parlé de nation et d'État qu'aujourd'hui. Ces 2 noms ne se prononçaient jamais sous Louis XIV. On n'en avait seulement pas l'idée. On n'a jamais été si instruit qu'aujourd'hui sur les droits de la nation et de la liberté. Moi-même, qui ai toujours médité et puisé des matériaux dans l'étude sur ces matières, j'avais ma conviction et ma conscience tout autrement tournées qu'aujourd'hui. Cela vient du Parlement et des Anglais. Remarquez, d'autre part, qu'à mesure que la liberté résonne, la tyrannie se raffine. » 16 décembre 1754. En Lyonnais, le bruit est grand que nos troupes ont été battues par les contrebandiers que l'on nomme les Mandrins, du nom de leur chef. On dit qu'il y a eu 53 dragons du régiment de Beaufremont sur le carreau et un officier pris par les révoltés et qu'ils ont fait passer 600 à 700 mulets chargés de marchandises qui se sont répandus dans le Dauphiné. Cette troupe d'habiles contrebandiers est aujourd'hui en Savoie. L'officier qu'ils ont pris servira d'otage aux prisonniers qu'on pourra leur faire et l'on n'osera pas les punir du dernier supplice de peur des représailles contre les gens du roi. Le malheur est que tout le peuple est pour ces révoltés, puisqu'ils font la guerre aux fermiers généraux que l'on répute trop riches et pour donner les marchandises à meilleur marché. Avec cela, les officiers qui marchent à cette guerre y vont à contre-cœur et ne parlent que des désagréments qu'ils y éprouvent. Beaune. Une bande de contrebandiers est entrée dans cette ville. Les maires et échevins voulurent fermer les portes, mais la milice bourgeoise ne put leur résister. Il y eut quelques gardes bourgeoises de tués. 200 contrebandiers sont entrés avec leurs marchandises. Ils ont été chez les magistrats, qu'ils ont réprimandés et menacés. De là, chez le receveur des fermes, et ont exigé une contribution de 20 000 livres. Ils ont peu débité de leurs marchandises. On dit que dans une rencontre, 15 dragons du régiment de Harcourt ont été tués par les Mandrins. Le pays d'Auxois est parcouru par ces bandes et toute la Bourgogne y est exposée. Janvier 1755, en Auvergne. Nos troupes sont très mal informées de la marche des Mandrins. Tout le pays est pour eux et contre les royalistes, parce qu'ils disent faire la guerre aux riches fermiers généraux et non aux rois. On leur donne même de faux avis dont il faut se défier, et les bourgeois craignent la vengeance des contrebandiers qui se montrent cruels quand ils sont offensés. Nos troupes sont fatiguées des mouvements continuels qu'on leur fait faire, surtout par le grand froid qu'il fait. 12 janvier 1755. J'arrive de la cour. J'y ai vu les gens intéressés à la guerre assurer que les Anglais vont pousser les puissances terriennes de nos ennemis à nous attaquer en Flandre et qu'il faut y faire de la dépense dans la crainte de ce danger. Mais je pense que nous n'aurons point la guerre tant que nous ne ferons point de mal à nos voisins. Bravons-les et ménageons nos forces. Employons-les à la marine. N'offensons pas nos voisins par la fausse crainte d'en être offensés. J'ai vu, en passant à Sèvres, la magnifique folie d'une nouvelle manufacture de porcelaine française, façon de Saxe. C'est un bâtiment immense, presque aussi grand que l'hôtel des Invalides. Il n'est bâti qu'en moellons et déjà commence à tomber avant d'être achevé. La marquise de Pompadour y est intéressée et y a intéressé le roi. Cependant, on vend les pièces à un prix exorbitant. La porcelaine de Saxe est meilleure et à meilleur marché. Celle de la Chine et du Japon est à meilleur compte encore. On donne la nôtre à vendre à des marchands avec profit de 12%. Personne n'en achète. On y dépense beaucoup. Ainsi, tout est-il conduit pour excéder les fonds de l'entreprise. Mai 1755. Mandrin a été pris dans un château de Savoie, à 4 lieues de la frontière. Il est vrai que ce château appartenait à un Français. Il a été pillé. Il y a eu violation de territoire, les habitants ont défendu ce château et 15 Savoyards ont été tués à cette bataille. Il y a protestation du Sénat de Chambéry et Sa Majesté Sarde demande que les assaillants soient condamnés aux galères. Mandrin a été jugé promptement et roué à Valence. Il n'avait jamais servi et était fils d'un marchand de chevaux du Dauphiné. Ce brave mandrin est mort avec la mollesse d'une femme. Il a pleuré et demandé pardon. Juillet 1755. Il y a eu commencement d'hostilité en Amérique. Deux de nos vaisseaux pris par les Anglais. Le troisième s'est échappé à la faveur du brouillard et de la nuit. Triste commencement d'une guerre qui va s'étendre et devenir générale. Je connais le roi comme rempli d'honneur. Il va se fâcher de ce rôle d'humiliation que lui fait jouer le ministère par ses vues trop courtes et ses démarches contradictoires. En cela, Sa Majesté sera appuyée par ce qu'on appelle les cabinets, qui ne demandent que la guerre, pour avancer injustement dans les honneurs de la guerre. Les nouvelles sont fort tristes. Le roi a été affecté à son grand couvert et les ministres montraient le même air de consternation. C'est le 8 juin, sur les bancs de Terre-Neuve, que notre flotte a été attaquée par deux escadres anglaises. Deux vaisseaux ont été pris, l'Alcide de 64 canons et le Lys de 50. Quatre sont arrivés en rade de Louisbourg. On ne sait ce qu'est devenu le reste. À l'instant de cette nouvelle portée à Londres, les Anglais ont déclaré la guerre par acclamation. Et les lords régents en ont fait autant, le roi étant en voyage à Hanovre, de quoi sans doute ils avaient des ordres conditionnels. Le duc de Mirepoix revint sur le champ et nous avons envoyé à Bussy un ordre pour quitter Hanovre. On a aussi déclaré à Compiègne, où est la cour, qu'il y avait ordre à nos colonels de lever 4 compagnies par chaque bataillon. Les bataillons, qui étaient de 13 compagnies, vont être mis à 17 de 40 hommes chacune. Ainsi, de 530 hommes, ils seront portés à 690. C'est environ un quart en su d'accroissement. On demande d'abord où l'on prendra ces hommes de bonne veuille. Cela se prendra forcément sur les milices. Et voilà ce qui fait tant craindre à nos habitants le métier de milicien. On était fort embarrassés à Compiègne. Voilà ces arrogants, ambitieux et usurpateurs anglais qui, semblables aux Algériens, déclarent la guerre et attaquent sans droit sur des prétentions usurpatrices. Notre guerre est juste, la leur semblable à celle d'Alger ou du loup à l'agneau. Dans le temps où nous négocions pour les limites, où nous nous relâchons de nos avantages à Coromandel, où nous cherchons à pacifier toute chose, on nous attaque 10 contre 1. Quel dessein plus tyrannique et plus usurpateur que celui de détruire notre marine en entier, pour de là passer aux colonies espagnoles. À cela gare que notre mauvais Conseil d'État n'aille donner des subsides pour avoir sa revanche sur terre. Les cabinets et les mauvais conseils le conseilleront de reste. Espagne, Hollande même, ont intérêt à nous défendre contre ces usurpateurs immortels, contre ces tyrans du monde. On dit que le roi va sommer l'Autriche et la Hollande de se déclarer pour ou contre nous, n'admettant pas de neutralité dans une guerre aussi juste. Certes, cette démarche est fort téméraire. Elle peut entraîner une guerre générale, et même cela pourrait aller jusqu'à la Révolution. Il semble que l'esprit de Louvois revive en mon frère, ou même que, plus persuasif encore, il triomphe et domine. Mais cette semonce, si elle a lieu, pourrait-elle arrêter la guerre et ramener l'Angleterre à plus de douceur dans les conférences pour les limites des colonies? La flotte de McNamara est entrée dans le Tage et devant Lisbonne. Ainsi est-elle à l'abri pour le moment. Les Anglais nous accusent du combat du 8 juin, disant que nous avons refusé le salut d'usage, que d'ailleurs nous avions depuis longtemps commencé les hostilités par terre sur l'Ohio. Mais ce sont les Anglais qui ont premier tiré à boulet. Ils disent avoir trouvé et pris notre trésor sur le vaisseau de M. Hocquart et le font monter à 50 000 livres sterling, ou 1 million 200 000 livres de notre monnaie. Ils nous ont délogés du fort de la Couronne au Canada. 10 décembre 1755. Pays d'Aunis. Depuis quelque temps, on élevait en ce pays deux temples d'Huguenots. Leur architecture était simple, ce n'étaient que des granges blanchies. Ils en étaient à 6 ou 7 pieds d'élévation. On doit croire que cela ne se faisait pas sans une permission secrète. Mais il y a eu plainte du clergé, et alors des ordres affectés ont été donnés de détruire ces commencements d'édifice. Monsieur Bayon, intendant de La Rochelle, à la tête de quelques troupes, a marché pour cette démolition comme on faisait au temps de Louis XIV. Notre ministre des Finances, surtout, cherche à favoriser la tolérance. Il sent combien les finances et le commerce ont besoin des protestants. Ce sont eux qui le font aujourd'hui dans nos provinces méridionales. Mais le clergé jette les hauts cris pour soutenir l'horrible édit de 1685 et pour la persécution. Le roi écoute, entend et se laisse aller à tout vent.
Grâce à des lectures d'extraits de récits écrits par Pierre de Nolhac, académicien, historien d'art, poète élu en 1922 au fauteuil 32 de l'Académie française, à qui nous devons de nombreux ouvrages sur le musée de Versailles, notamment le château de Versailles, la création de Versailles, Louis XV et Marie Leszczynska, Louis XV et Madame de Pompadour, Madame de Pompadour et la politique et bien d'autres, nous allons maintenant ensemble entrer à Versailles, dans les appartements du roi. Une des choses qui apparaît dans les textes de Pierre de Nolhac sur la vie du roi à la cour, c'est cette facilité que les intérieurs de Versailles donnent au roi pour s'isoler. Au-dessus de sa chambre à coucher, écrit-il, et des cabinets qui y font suite, règnent plusieurs étages de petites pièces et d'entresols, s'éclairant d'étroites cours ignorées du public et sur lesquelles ne donnent aucun logement. Ce sont proprement les petits cabinets ou petits appartements, comme les désignent souvent par ouï-dire les divers mémoires de l'époque, ces petits cabinets, d'une distribution compliquée, véritable labyrinthe d'escaliers et de couloirs enchevêtrés, jouent un grand rôle dans la vie du roi Louis XV.
C'est là qu'il a sa bibliothèque, ses cartes de géographie, son tour, ses cuisines, ses confitureries, ses distilleries, une salle de bain et même sur une des terrasses supérieures, des jardins et des volières. La décoration est partout fort soignée. Les sculptures ont été proportionnées au peu de hauteur et plus souvent vernissées que dorées. La principale pièce est la petite galerie des petits appartements, peinte en vernis martin, voisine d'un cabinet vert, réservé aux jeux et ornée de tableaux représentant des chasses d'animaux sauvages, par Lancret, Pater, De Troyes, Karl von Loo, Paroissel et Boucher. Dans ces réduits délicieux, comme les nomme un contemporain, Louis XV se trouve vraiment chez lui, autant que pourrait l'être un simple particulier. En ce coin de Versailles, qu'il s'est réservé de préférence et qu'il dispose à son goût, il est sûr de n'être jamais dérangé. Il n'y convie que fort rarement ses enfants eux-mêmes. Une telle solitude a ses inconvénients, qui résulte de la multiplicité des escaliers, des issues difficiles à garder et du petit nombre des gens de service. Plusieurs fois, des étrangers s'y introduisent et s'avancent par mégarde jusqu'à la pièce où est le roi. Mais les commodités sont considérables pour maintes circonstances de la vie quotidienne. Et, tout d'abord, les passages des petits cabinets permettent à Louis XV de se rendre, à toute heure et à l'insu de tous, chez Madame de Pompadour.
À partir de 1732, plusieurs favorites jouent un rôle important dans la vie personnelle du roi Louis XV. La marquise de Pompadour devient maîtresse du roi en 1745, année au cours de laquelle Voltaire est nommé historiographe du roi. Madame de Pompadour réside à Versailles de 1745 jusqu'à sa mort en 1764. Maîtresse, puis amie et conseillère du roi Louis XV, elle exerce un rôle politique sans parler de son influence prépondérante dans le domaine des arts. Elle place sous sa protection le peintre François Boucher et soutient nombre d'artistes à l'instar du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle. Elle fait nommer au poste de directeur des bâtiments son frère, le marquis de Marigny. L'académicien Pierre de Nolhac nous entretient maintenant de l'influence à la fois faste et néfaste de cette marquise de Pompadour auprès du roi Louis XV.
La marquise est logée à peu de distance de ses petits cabinets, à la même hauteur, sous les toits, du côté du parterre du nord. Bien que l'appartement soit à une centaine de marches au-dessus des cours, il n'est dédaigné par personne. C'est celui dont Madame de Châteauroux s'est contentée, et plus tard, il doit être habité par Monsieur de Richelieu. Monseigneur de Richelieu. Le roi a eu peu de choses à faire changer pour y loger ses nouvelles amours, et le meuble ancien y est resté. Et quelle opposition demeurait possible contre une femme qui disposait à son gré du roi, l'emmenait coucher chez elle à deux pas de Versailles, dans son petit château de la Selle, d'où il rentrait seulement pour le conseil, et qui jamais ne le laissait plus d'un quart d'heure seul avec un ministre. Les créatures de la marquise commençaient à remplir les hautes fonctions. Il n'y avait guère qu'une seule puissance dont elle ne disposa point, puissance incertaine encore, mais déjà inquiétante, et dont le rôle, avec tant de questions graves qui se posaient dans l'État, grandissait d'année en année. C'était l'opinion publique. D'abord favorable ou indifférente, elle se déchaînait maintenant contre la favorite et, dirigée par des gens habiles, la rendait responsable des fautes du gouvernement et du mécontentement universel. La misère augmente à Paris et dans les provinces. C'est un fait qu'on ne peut nier et qu'assurent tous les intendants. En ce même temps, le roi, qu'irrite sans l'éclairer les remontrances du Parlement, a laissé porter la dette de l'État, pour les besoins de la guerre, à un chiffre qu'elle n'a jamais atteint. Le ministre Machaut a bien conçu un système général de réformes qui enrichirait l'agriculture, développerait l'industrie et rendrait plus facile et plus équitable le paiement de l'impôt. Mais l'application du plan est rendue difficile par le désordre qui s'est introduit dans les finances. Des gaspillages scandaleux s'y produisent. On ne trouve pas d'argent pour restaurer la marine de guerre, qui se détruit et se réduit chaque jour, mais le service des bâtiments du roi, que dirige l'oncle de Madame de Pompadour, dispose de sommes considérables pour de petites bâtisses sans valeur, qui coûtent autant que les somptuosités de Louis XIV et qu'on démolit au moindre caprice. Pour la marquise seule, on travaille en 10 maisons à la fois. Les pensions sont prodiguées, des gratifications énormes paient les moindres services, pour peu que la faveur les recommande. Toutes les dépenses de la cour se surchargent sans contrôle. Les petits voyages du roi sont ruineux. 4 jours de déplacement reviennent à 100 000 livres d'extraordinaire. Que dire des grands voyages, où tout un monde de serviteurs suit leur majesté? Madame Infante vient de se rendre à Versailles pour voir son père et lui présenter sa fille, la petite infante Isabelle. Le voyage a coûté 400 000 livres depuis la frontière, et pour ramener Madame Victoire du couvent, où s'est achevée son éducation, quoi qu'il n'y ait eu, qu'à aller à Fontevraud et en revenir, le roi a voulu, comme pour une arrivée de dauphine, un tel faste, de tels honneurs, qu'on a dépensé tout près d'un million. Quelque fabuleux qu'il semble, ces chiffres sont sûrs, et l'on se figure, en face d'une telle réalité, ce que peuvent ajouter et inventer les gens d'imagination, dont la France a toujours fourmillé. On devine l'exaspération des peuples, surchargés d'impôts, et les malédictions qui commencent à monter vers le trône. La politique extérieure du royaume ne donne confiance à personne. La paix générale, paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, qu'on vient de proclamer ne satisfait point. Après tant d'espérances conçues pour d'éclatantes victoires, ces longues et coûteuses campagnes n'ont valu à la France aucun avantage considérable. On regrette tant de sang versé à la seule fin d'obtenir un duché en Italie pour l'infant Don Philippe, gendre de Louis XV, et ce duché de Parme, Plaisance et Guastalla, est jugé un médiocre établissement pour une fille aînée de France. On trouve que le roi abandonne bien aisément toutes ses conquêtes et laisse à l'Angleterre la part trop belle. Il serait sage d'observer que l'infériorité de la marine française rend impossible une prolongation de la guerre, qui perdrait sans ressources le commerce et colonies. Mais l'opinion est moins frappée de cette vue raisonnable qu'elle n'est indignée, par exemple, de l'expulsion du prince Charles-Édouard, qu'on a arrêté sur l'ordre du roi au sortir de l'opéra, qu'on a fouillé, garrotté, mis en voiture pour Vincennes, puis jeté à la frontière. Tout Paris est ardemment jacobite, et le sentiment chevaleresque de la nation est révolté de cet acte de violence accompli, dit-on, par bassesse envers les Anglais. Cet incident et d'autres, qui appartiennent à la chronique toujours agitée de la capitale, excitent extrêmement les esprits. La célébration de cette paix, à laquelle le ministère voulait donner quelque éclat, échoue piteusement, un jour de février 1749 par un temps de neige et de brouillard, au milieu des mauvaises dispositions du public. On entend des huées dans la rue que suit le cortège, et sur chaque place, après la proclamation du roi d'armes, quand l'archer entonne l'antienne « Vive le roi !». La masse des assistants s'abstient de pousser le cri ordinaire. Au hall, les haranguères se querellent en disant « Tu es bête comme la paix !». Ce qui est encore une façon de raisonner de la politique, et la maigre suppression de plusieurs petits droits dont on a pensé réjouir le peuple ne sert qu'à multiplier les murmures sur les dilapidations de la gueuse du roi. À cette date se place la plus curieuse peut-être des lettres inconnues de la marquise. Elle y marque son sentiment sur les choses du temps et y mentionne assez vivement certaines attaques auxquelles elle n'est pas encore accoutumée. C'est à Voltaire qu'elle l'adresse, à propos d'un service qu'il lui a demandé. Elle a fait agréer l'exemplaire de dédicace du panégyrique de Louis XV, traduit en 4 langues, latin, espagnol, italien et anglais, que l'auteur a imprimé avec l'espoir d'attirer enfin la bienveillance du maître. C'est assurément ce bel exemplaire relié en maroquin bleu aux armes royales, avec filets et dentelles, que M. de Richelieu a négligé de remettre quand le roi a reçu l'Académie à l'occasion de la paix. Madame de Pompadour s'est trouvée plus obligeante. Elle se montre tout entière dans sa réponse, avec sa bonté et ses prétentions. Son petit ton protecteur et conseiller, et aussi dans les apprêts de son style, qu'elle guinde et fleurit pour Monsieur de Voltaire.
J'ai reçu et présenté avec plaisir au roi les traductions que vous m'avez envoyées, monsieur. Sa Majesté les a mises dans sa bibliothèque, avec des marques de bonté pour l'auteur. Si je n'avais pas su que vous étiez malade, le style de votre seconde lettre me l'aurait appris. Je vois que vous vous affligez des propos et des noirceurs que l'on vous fait. Ne devriez-vous pas être accoutumé et songer que c'est le sort de tous les grands hommes d'être calomniés pendant leur vie et admirés après leur mort? Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Corneille, Racine, etc. Et vous verrez que vous n'êtes pas plus maltraité qu'eux. Je suis bien éloigné de penser que vous ayez rien fait contre Crébillon. C'est... ainsi que vous, un talent que j'aime et que je respecte. J'ai pris votre parti contre ceux qui vous accusaient, ayant trop bonne opinion de vous pour vous croire capable de ces infamies. Vous avez raison de dire que l'on m'en fait d'indigne. J'oppose à toutes ces horreurs le plus parfait mépris. Je suis fort tranquille, puisque je ne les essuie que pour avoir contribué au bonheur du genre humain en travaillant à la paix. Quelque injuste qu'il soit à mon égard, je ne me repens pas d'avoir contribué à le rendre heureux. Peut-être le sentira-t-il un jour. Quoi qu'il en arrive de la façon de penser, je trouve la récompense dans mon cœur, qui est et sera toujours pur. Adieu. Portez-vous bien. Ne songez pas à aller trouver le roi de Prusse, quelque grand roi qu'il soit, quelque sublime que soit son esprit. On ne doit pas avoir envie de quitter notre maître quand on connaît ses admirables qualités. En mon particulier, je ne vous le pardonnerai jamais. Bonjour.
Tel que nous savons Voltaire, cette lettre lui apporte à la fois piqûres et caresses. Il est satisfait cependant, puisque le panégyrique est arrivé à son adresse, et sa reconnaissance s'exprime en des termes qui doivent lui préparer d'autres faveurs. Il termine alors, comme historiographe royal, son récit de la dernière guerre et analyse le traité qui y a mis fin. l'exemplaire manuscrit qu'il envoie à la marquise s'achève par ces lignes extraordinaires. Il faut avouer que l'Europe peut dater sa félicité du jour de cette paix. On apprendra avec surprise qu'elle fut le fruit des conseils pressants d'une jeune dame du plus haut rang, célèbre par ses charmes, par des talents singuliers, par son esprit et par une place enviée. Ce fut la destinée de l'Europe dans cette longue querelle qu'une femme,
Marie-Thérèse d'Autriche,
la commença et qu'une femme,
la comtesse de Pompadour,
la finit. La seconde a fait autant de bien que la première avait causé de mal. S'il est vrai que la guerre soit le plus grand des fléaux qui puissent affliger la terre et que la paix soit le plus grand des biens qui puissent la consoler. Madame de Pompadour, décidément promise à l'immortalité, ne doutait point que cette page ne fût un jour imprimée. Aussi n'avait-elle plus rien à refuser à ce beau flatteur. Il avait, cette fois, frappé juste et dépassé d'un seul coup tout ce que pouvait donner Crébillon. Il en résulta un brevet du roi du 27 mai 1749, accordant au sieur Arouet de Voltaire la faculté de vendre la charge de gentilhomme ordinaire de sa chambre et lui en conservant, par faveur spéciale, le titre, le privilège et les fonctions. Le don de la charge ayant été gratuit, c'était un présent d'une 60 000 livres qu'il recevait et qui payait de façon royale la dette de la jeune dame du plus haut rang. C'était en même temps libérer honorablement Voltaire de ses devoirs envers un souverain décidément trop insensible à ses louanges. Rien ne l'empêchait plus d'aller terminer la pucelle chez le roi de Prusse. Quelle que soit l'abnégation du cœur pur de la marquise, qui se flatte de ne vouloir que le bonheur du genre humain, elle est trop femme pour ne point cruellement sentir l'hostilité de l'opinion publique et l'hypocrisie des courtisans intéressés à la flatter. Par là commence l'expiation de sa fortune, qui ne cessera qu'avec son règne. Chaque jour, ses pamphlets infâmes dirigés contre elle lui portent une nouvelle blessure. Les mécontents la prennent à partie dans les libellés anonymes qui foisonnent. La cour, les salons, les rues, la chansonnent avec des mots qui raillent et qui méprisent. Et Madame de Pompadour, douce pourtant et bonne, perdra parfois, en son indignation, toute douceur et toute bonté. Les murs de la Bastille lui sembleront à peine assez épais pour étouffer la voix des pamphlétaires. Pour la première fois, en cette littérature clandestine, la personne de Louis XV a sa large part des sarcasmes et des menaces. Les estampes s'en mêlent. Une de celles que saisit la police montre le roi enchaîné par la marquise et fouetté par les étrangers. Les auteurs de ces hardiesses restent inconnus, comme s'ils étaient soutenus et sauvés par des protections mystérieuses. Jamais pourtant, le manteau des colporteurs n'abrita d'outrages aussi violents pour la personne royale que la prophétie dont voici quelques vers, enflammés déjà par un esprit de révolution. Louis, dissipateur des biens de tes sujets, toi qui comptes les jours par les mots que tu fais, esclave d'un ministre et d'une femme avare, Louis, apprends le sort que le ciel te prépare. Si tu fus quelque temps l'objet de notre amour, tes vices n'étaient pas encore dans tous leurs jours. Tu verras chaque instant ralentir notre zèle et souffler dans nos cœurs une flamme rebelle. De guerre sans succès fatiguant tes états, tu fus sans généraux, tu seras sans soldats. Tu ne trouveras plus des âmes assez viles pour oser célébrer tes prétendus exploits, et c'est pour t'abhorrer qu'il reste des Français. D'autres placards, moins âpres et plus venimeux, décèlent assez clairement leur origine. Le poète, qui flétrit le roi endormi dans le sein de la honte, s'indigne surtout de le voir épris d'une femme obscure. Si des cercles parlementaires sortent certains pamphlets qui font songer aux mazarinades, c'est en meilleur endroit que se préparent les poissonnades les plus perfides. Monsieur Berrier, lieutenant de police, tout dévoué à la marquise, traverse un jour la grande galerie de Versailles. Il est assailli par un groupe de petits maîtres qui lui demandent assez insolemment quand il fera cesser toutes ces chansons horribles contre le roi. Son prédécesseur, clame-t-il, feu monsieur d'Argenson, aurait bien su trouver les auteurs, tant il connaissait Paris. Berrier les regarde dans les yeux et dit « Je connais Paris, messieurs, autant qu'on puisse le connaître, mais je ne connais pas Versailles. » Les beaux parleurs n'ont plus qu'à pirouetter sur leurs talons rouges.
L'historien Pierre de Nolhac nous fait assister maintenant, comme si nous y étions, aux nombreux déplacements du roi Louis XV et de sa cour et de sa famille dans ses différentes demeures.
La fonction que remplit Madame de Pompadour et qui lui confère tant de pouvoir ne va pas sans de grandes fatigues et une prodigieuse dépense d'elle-même. Pour s'assurer une fidélité qui commence à faiblir, il lui faut se prêter à voyager sans cesse. Louis XV a un besoin de déplacer sa personne et de changer son horizon, où se révèle l'incurable malaise de son ennui. Plus encore qu'autrefois, il est toujours par voie et par chemin, et ne séjourne guère à Versailles. À chaque instant, il part pour un des petits châteaux où les courtisans le suivent par groupe d'invités. Ils ont imaginé un uniforme spécial à chaque résidence, qu'il faut obtenir du roi le droit de porter. A choisi par exemple l'habit vert, avec un grand galon d'or et un bordé. À Crécy, l'habit de même couleur a un simple bordé et des boutonnières d'or. Ces faveurs sont pour une vingtaine de familiers, rarement nommés deux fois de suite. Il n'y a que la marquise qui soit de tout et qui ne quitte jamais le maître. La vie du roi dans les petits châteaux n'est racontée par personne. Seul de toute cette réunion de grands seigneurs, le prince de Croix a pris la peine de fixer le souvenir de quelques-unes de ses journées. « Je fis la politesse à Madame de Pompadour, écrit-il en mars 1751, de lui demander à être des voyages. Et le 7 mars, j'allais pour la première fois passer la journée avec le roi à la Muette. J'y vis les nouveaux ouvrages. Les trois beaux salons et les souterrains sont superbes. Le reste, peu de choses. » On faisait une terrasse et une augmentation vers le bois. On y vivait avec beaucoup de liberté. Il y avait un grand dîner, mais le souper était le plus considérable, étant le repas du roi. Il se promenait, s'il faisait beau. On jouait dans le salon après dîner. Ensuite, il travaillait ou tenait conseil. À 8h30, tout le monde se rassemblait au salon. Ils venaient y jouer. À 9h, on soupait à une très grande table à 10. C'était Monsieur le Premier, gouverneur de la Muette, qui servait le roi et le nourrissait. Les dépenses du total étant passées sur le compte qu'il en donnait. Nous étions ce jour-là à table, à prendre du roi par sa gauche, le roi, Madame la Marquise de Pompadour, Prince de Soubise, Duc de Luxembourg, Marquis d'Armentières, Marquis de Voyer, Comte d'Estrée, Prince de Turenne, comte de Maillebois, marquis de Sourches, marquis de Choiseul, comte de Croissy, Madame Durour, duc de Boufflay, marquis de Beaufremont, duc de Breuil, prince de Croix, marquis de Pignatelli, duc de Chevreuse, duc de Chaulnes, duc de La Vallière, marquis de Gontaut, duc de Richelieu, Madame la Duchesse de Brancas, duc d'Ayen et Madame d'Estrade. À une petite table étaient messeigneurs de Laval et de Beuvron. Ce voyage était très gai. La marquise fut surtout très enjouée. Elle n'aimait aucun jeu et jouait surtout pour polissonner et être assise. Le roi faisait deux parties après souper, car il aimait le gros jeu, et les jouait tous très bien et très vite. Et il se couchait vers 2h. C'est ainsi qu'était la vie de tous les petits châteaux. Après le coucher, je revins à Paris. Il n'y a qu'un pas, car c'est l'endroit où le roi approche le plus de la capitale. Les privilégiés, qui passaient ces aimables heures dans l'intimité royale, ne semblait se douter des haines qui s'amassaient contre l'autorité, dans cette capitale toute voisine. Chaque année d'administration détestable aggravait les causes de ce malaise financier, contre lequel on ne luttait plus et qui devait, à la fin du siècle, emporter la monarchie. Le roi, entouré de flatteurs ou de gens timides, n'entendait, dans ses réunions de courtisans, que des paroles complaisantes. Son indolence, qui laissait tout aller, n'était secoué par nul avis sérieux. Les questions du temps se traitaient par ces allusions légères où l'esprit tient lieu de bonnes raisons. Les plus habiles s'ingéniaient à exciter les secrètes hostilités de leurs maîtres. Quand le Parlement de Paris va se mêler de rappeler la cour aux économies nécessaires, il se trouvera quelqu'un à la table où le roi jette de gros écus pour dire « Bientôt, messieurs du Parlement ne permettront plus à votre majesté que de jouer de petits écus ». On empoisonne l'esprit du roi tout le long du jour par des paroles semblables. Si Madame de Pompadour y excelle, ce n'est pas elle cependant qui donne le ton. Lorsque la politique apparaît dans les entretiens de l'entourage, on n'en voit que les petits côtés. mécontentement de personnes ou rivalité de corps. Les graves agitations du clergé et du Parlement ne sont ici que bataille entre clercs et Robin. La volonté du roi saura les mettre à raison. Les hommes de cour ne sont point en état de comprendre les conséquences de ces crises qui se prolongent, ni de redouter la révolte des esprits contre les abus dont ils profitent. C'est encore l'un des leurs, le prince de Croix, qui en fait l'aveu. On ne parle point à la cour des grandes affaires qui font tant de bruit partout ailleurs. Non que le roi n'en soit quelquefois troublé, mais il s'étourdit, et la favorite n'a pas de soin plus attentif, à cette première époque de leur liaison, que d'écarter de lui des préoccupations qui le lui disputent. Elle apporte à cette œuvre intéressée un dévouement et une persévérance qu'on voudrait voir mieux appliquées. Elle achète ses heures d'intimité et d'abandon par un sacrifice constant de ses goûts, une vie nomade et un surmenage sans répit. On devine, en quelques-unes de ses lettres, à quel point elle préférerait une autre existence.
« Vous croyez que nous ne voyageons plus ?» écrit-elle à la comtesse de Lutzelbourg. « Vous vous trompez ? Nous sommes toujours en chemin. Choisis, la Muette, Petit Château et certains ermitages près de la grille du Dragon à Versailles, où je passe la moitié de ma vie. Il a 8 toises de long sur 5 de large, et rien au-dessus, jugez de sa beauté. Mais j'y suis seule, ou avec le roi et peu de monde. Ainsi, j'y suis heureuse. »
Et un autre jour, pour excuser un long silence dont cette amie éloignée pourrait se plaindre, elle jette quelques lignes bien significatives.
« Que la vie que je mène est terrible. À peine ai-je une minute à moi, répétition et représentation, et 2 fois la semaine voyage continuel, tant au petit château qu'à la Muette, etc. Devoir considérable et indispensable, reine, dauphin, dauphine, 3 filles, 2 infantes. Oh, jugez s'il est possible de respirer. » Plaignez-moi et ne m'accusez pas.
C'est une vie terrible, en effet, où toutes les forces de l'esprit et des nerfs doivent demeurer constamment tendues. Mais d'Argenson exagère quand il écrit, toujours par oui-dire, il est vrai, que la marquise change chaque jour jusqu'à devenir un squelette. Le bas du visage est jaune et desséché, pour la gorge, il n'en est plus question. La favorite restera jolie quelque temps encore. Ses familiers, autant que ses peintres, nous l'attestent. Cependant, il n'est vigueur ni beauté qui puisse résister aux excès d'une telle existence, de laquelle s'accommode seule l'extraordinaire santé de Louis XV. Pour le plaisir de faire un glorieux chemin à ses côtés, plutôt que pour l'intéresser à la marine, qu'il est toujours question de reconstituer, Madame de Pompadour organise un voyage du roi en Normandie. Le déplacement royal semble sans apparat, bien qu'une énorme dépense en résulte. Le roi est dans un vis-à-vis avec un seul courtisan. Suivent une berline pour 4 dames, une seconde berline et une gondole à 6. Mais tous les services de bouche et autres, qui demandent un personnel considérable, ont pris les devants et attendent Sa Majesté au Havre. On part de Crécy en chassant le long du chemin dans la forêt de Dreux. On va prendre des voitures à la porte du château d'Annay, où la vieille duchesse du Maine vient faire sa cour, et l'on arrive à la nuit close par les avenues illuminées au château de Navarre. C'est un des plus beaux domaines du pays normand, et le duc de Bouillon y a préparé une réception somptueuse. Le roi visite les jardins dessinés par le nôtre, se promène en calèche dans la forêt d'Évreux, assiste à une chasse et repart de nuit pour rentrer à Rouen sur les 8 heures du matin. On ne fait que traverser la ville, dont les rues sont tendues magnifiquement et où la population acclame le roi. Il s'arrête seulement pour voir la manœuvre du pont de bateau sur la Seine et le passage d'un navire, remonte aussitôt en carrosse et arrive au Havre à 6 heures du soir, au bruit des canons du port et de la citadelle. Sa Majesté est descendue, avec sa suite, à l'hôtel de ville, où elle est d'ailleurs assez mal logée. Le duc de Penthièvre, les ministres de la marine et de la guerre, messeigneurs Rouillet et d'Argenson, sont présents. Le lendemain, après l'audience du Parlement de Rouen et de la Chambre des Comptes, le roi va au bassin intérieur, qu'il voit d'abord à sec, puis rempli. On fait manœuvrer devant lui une flûte de 36 canons, nouvellement construite, et 3 vaisseaux sont lancés à la mer. En sortant du port, sur la rade, où l'on a pu réunir près de 200 bâtiments, le roi assiste à un combat de 3 frégates. Et à ces divers spectacles, il doit prendre une idée de la marine marchande et militaire de son royaume. Au retour, ayant repassé par sa bonne ville de Rouen, il va coucher à Bizy, château du maréchal de Belle-Île, dont les honneurs sont faits, en son absence, par le duc de Luxembourg, et le lendemain soir, on est à Versailles.
Thank you.
Ce voyage ne s'est pas accompli sans provoquer de murmures. Cette promenade affichée de la maîtresse à travers la France a causé quelques scandales. Au surplus, la charge s'est trouvée lourde pour les villes et la province, aussi bien que pour le trésor. Et chacun dit que le roi a dépensé beaucoup trop, dans l'état présent des finances, pour faire voir la mère à la marquise et manger avec elle du poisson frais. De plus grandes plaintes se font entendre à chaque construction ou création de pur agrément que multiplie le caprice de Madame de Pompadour. Le peuple lui reproche une dilapidation continuelle et un effronté mépris de sa détresse. Il est vrai que la favorite a beaucoup de maisons, et l'on peut trouver qu'elle jette trop aisément l'argent du roi aux maçons, aux jardiniers, aux décorateurs. On a le total de ce genre de dépenses. Elles monteront pour 20 années à 6 510 302 livres, ou suivant un autre état, à 7 443 723 livres. C'est l'impardonnable fantaisie que la France, appauvrie, a dû payer à la marquise. Mais en faut-il exagérer la folie ? Ces prodigalités, dont profitent d'ailleurs l'art et les artistes, ne sont point un don pur et simple fait à une maîtresse avide. Il ne faut pas oublier qu'elle bâtit presque toujours sur des terrains appartenant au roi et que ses belles habitations, en fin de compte, doivent rester à la couronne. La maison de l'Ermitage de Versailles, par exemple, qu'on a beaucoup blâmée et qui a coûté 300 000 livres, s'élève sur une partie du parc dont la jouissance seule est accordée à la marquise, sa vie durant, et qui fait, après elle, retour au roi. Elle édifiera de même façon ses autres ermitages dans les deux grandes résidences de la cour, à Fontainebleau et à Compiègne, ainsi que son hôtel de Versailles, bâti auprès du château, tout contre le mur des réservoirs du jardin, et qu'un corridor construit exprès met en communication avec l'aile du nord. Ce n'est pas Madame de Pompadour qui est chez elle en tous ses logis, c'est le roi. Plus importante sera l'acquisition qu'elle va faire à Paris, en 1753, du magnifique hôtel d'Evreux, dans les Champs-Élysées, payé 730 000 livres. Il sera agrandi et refait presque entièrement, splendidement meublé, étendu de gobelins au chiffre royal, transformé enfin en habitation princière, pour la raison que la marquise peut y recevoir le roi. Et bientôt, par un article de son testament écrit en 1757, elle le suppliera d'accepter le don de cet hôtel, susceptible de faire le palais d'un de ses petits-fils. Ce sera là sa véritable maison, et on comprend qu'elle veuille une fois s'installer vraiment chez elle. Mais le séjour qu'elle aménage avec le goût le plus passionné, celui où tout est son œuvre et qui sort de son imagination de femme, comme un palais d'enchantement naît d'une fantaisie de fée, c'est Bellevue. Et Bellevue, dans sa pensée, est destinée aussi à demeurer au roi comme un souvenir d'elle. Une vue magnifique sur le cours de la Seine, les coteaux de Saint-Cloud et la plaine de Paris a décidé la marquise à bâtir sur le versant de Meudon qui regarde Sèvres. Le terrain royal, qui descend jusqu'à la rivière, se prête à un beau tracé de pente et à un heureux arrangement de perspective. Un dessin de portail nous montre le premier état des jardins de Bellevue. Alors que ni les arbustes, ni le buis ne garnissent le remblai des allées, qu'aucun bosquet n'a pris forme et que le petit château, à 9 fenêtres de façade, domine, de l'élégante architecture de l'assurance, des terrasses sans marbre et sans charmille. Auprès de l'arbre unique du paysage, au milieu d'un groupe de visiteurs, on cherche la marquise, s'abritant sous son parasol de dentelle dont un baromètre d'argent incruste le manche, et faisant à quelques amis les honneurs de sa création. Il a fallu plus de 2 ans et demi pour tout finir. Les travaux énormes de terrassement, la profondeur des fondations dans un sol sablonneux et glissant ont multiplié les difficultés et les dépenses. La méchanceté publique y a trouvé ample matière. On venait voir de Paris les 800 ouvriers qu'employait Madame de Pompadour, et l'on savait trop qu'elle ne les payait point sur ses épargnes. On parlait de 7 gros millions qui devaient se réduire, tout compte réglé, à 2 589 714 livres, 11 sols, 10 deniers. L'état que tenait la marquise lui permettait d'avoir une maison de campagne de ce prix. Le moment seul était mal choisi pour la construire. Les artistes n'ont qu'à se réjouir de profusion, dont les autres médisent avec justice. Bellevue leur a été livrée comme leur demeure. Et si nulle magnificence superflue ne s'y étale, on y voit paraître, sous toutes ses formes, l'art le plus délicat, le plus raffiné, celui que Madame de Pompadour goûte mieux qu'aucune femme de son temps et qu'elle se plaît à inspirer. Partout à Bellevue, la main-d'œuvre la plus chère a produit les œuvres les plus parfaites. Il n'est pas un bouton de porte, pas une espagnolette qui ne soit un bijou de ciselure. Du haut en bas de ce logis, les grands décorateurs de Versailles et des maisons royales, Verberck et Rousseau, ont sculpté dans le bois les attributs musicaux, amoureux ou champêtres, et ont fait autour des corniches folâtrer de petits amours. Brunetti a peint de scènes mythologiques l'escalier qui mène à la merveilleuse galerie, dont la marquise a inventé elle-même le dessin d'ensemble. De légères guirlandes y encadrent une suite de panneaux de boucher. La distribution des dessus de porte, réglée par l'oncle Tournehem, a donné à Oudry la salle à manger, à Pierre la salle de musique, à Karl Van Loo enfin le salon d'assemblée, où ses compositions évoquent sous forme d'allégories ingénieuses l'architecture, la peinture, la sculpture et la musique. Van Loo semble être, plus que ses confrères, le peintre de Bellevue. On lui a réservé les toiles qui ornent l'appartement du roi, et un peu plus tard, Monsieur de Marigny fait placer dans la chambre à coucher de sa sœur trois de ces intérieurs turcs où l'artiste a donné à ses odalisques et à ses sultanes les grâces de la maîtresse du logis. La sculpture n'est point oubliée. Dans l'antichambre se dressent de sveltes figures d'Adam et de Falconet. Dans les jardins, des chefs-d'œuvre de Pigalle, une statue de Louis XV que détruira la Révolution, et un groupe, l'amour et l'amitié, honorant en un même marbre les deux divinités du lieu. Bientôt, l'amitié seulement ayant subsisté, c'est encore Pigalle qui élèvera la nouvelle image, au milieu du bosquet préféré. Il en fera un des meilleurs portraits de la châtelaine de Bellevue, et le roi la reconnaîtra, debout sur le piédestal, où jadis elle jouait avec l'amour, et maintenant, s'avançant toute seule, d'un mouvement gracieux et tendre, revêtue d'une robe flottante et la main posée sur son cœur. L'amour dominait-il encore Louis XV quand Bellevue fut inaugurée? Il en gardait du moins toutes les apparences, pendant cette journée où Madame de Pompadour lui présenta le château qui devait plus tard lui revenir. Elle avait tout préparé pour l'éblouir, le mobilier le plus exquis et de la forme la plus nouvelle, et les plus rares curiosités de la Chine étaient venues parer des lambris dignes d'accueillir le roi Louis XV.
À partir de 1750, la marquise devint pour Louis XV une véritable amie et une confidente, gardant toujours pour lui son influence jusqu'à sa mort en avril 1764. Les lectures des extraits de textes du Marquis d'Argenson ont été assurées par le comédien Michel Girard, celles de Pierre de Nolhac par le comédien Arnaud Victor. Montage, habillage sonore et musical, mixage, Jérôme Le Baron. Réalisation, Virginia Crespo. C'est ainsi que s'achève le portrait du roi Louis XV sous les plumes successives des académiciens Pierre de Nolhac et précédemment du Marquis d'Argenson. Découvrez Louis XV, évoqué par deux autres historiens et écrivains, Voltaire et Pierre Gaxotte. D'autres lectures de textes d'académiciens vous attendent et vous sont proposées en téléchargement gratuit par Canal Académie sur de grands personnages de l'histoire de France, Henri IV, Louis XIV ou encore l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse impériale de Napoléon III.